Le Grand Matin Sud Radio Weekend. Le débat de la semaine.
Le débat de la semaine en compagnie d'Éric Tegner, président de Racines d'Avenir. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bienvenue sur Sud Radio. Paulo Pisco, député socialiste des Portugais de France. Je vous dis bonjour ou c'est déjà bem-vindo ?
Bonjour, on peut dire bonjour et bem-vindo.
Et Gilles Casanova, consultant stratégie, ancien membre de cabinet ministériel. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bienvenue sur Sud Radio. Première partie du débat, on va évidemment parler de la disparition de Jacques Chirac. L'ancien président est décédé jeudi dernier. Tiens, on va commencer avec vous, Paulo Pisco. Quelle était l'image de Jacques Chirac, alors à l'étranger en général, mais avec vous au Portugal en particulier ?
L'image de Jacques Chirac, elle était une image très positive. On le voit aussi par les réactions de nos plus grands responsables, le président de la République et notre premier ministre António Costa, qui ont fait des déclarations dans ce sens, dans la grandeur de l'homme d'État que Chirac était, et surtout aussi de... Tous les deux ont fait référence à la proximité qu'il avait avec les Portugais qui sont ici en France. Donc il était un ami des Portugais, il est connu, il est considéré comme un ami des Portugais.
Gilles Casanova, quelle image, vous, qu'est-ce que vous garderez de Jacques Chirac ?
Le fait saillant, c'est évidemment que c'est le premier président français qui, à l'ONU, annonce qu'il mettra son veto à une résolution américaine, et pas la moindre, puisque c'est la guerre d'Irak.
En 2003.
Donc c'est le retour de la France sur la scène internationale, c'est-à-dire dans la lignée de ce que Charles de Gaulle avait fait en 64, en sortant de l'OTAN.
66. Il l'annonce en 64, on sort en 66,
voilà.
C'est vrai. Pardon.
Son discours de 64, dans lequel il dit « Nous sommes les alliés de l'Amérique, mais nous ne voulons pas boire au grand verre que nous tend l'Amérique. Nous avons notre propre verre, nous voulons trinquer avec chacun comme nous l'entendons. » 1964.
Oui, c'est un accent gaullien, le refus de la guerre en Irak.
C'est sa continuité avec le gaullisme, elle se situe sur deux points. D'abord, l'indépendance de la France, et d'autre part, un intérêt pour le peuple tel qu'il est, qu'on ne trouvera pas chez ses successeurs.
Éric Tegner, quelle image garderez-vous de Jacques Chirac ? Vous étiez né en 95.
Oui, j'étais né en 95. Incontestablement, c'est un peu... Non, absolument pas. Ça, j'ai jamais voté pour Jacques Chirac. Je ne suis pas sûr que j'aurais voté pour lui, je le pense. Incontestablement, c'était le président de ma jeunesse. Aujourd'hui, beaucoup de Français, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre, se retrouvent un peu dans la fibre de Jacques Chirac. D'ailleurs, qui prouve finalement que l'identité, le bon vivre ensemble, etc., permet finalement de rassembler les Français. Vous savez, souvent, aujourd'hui, on se moque des hommes politiques qui disent que la France est un peu vin rouge, saucisson, fromage, etc. Mais c'était ça, Jacques Chirac avec la bière en plus.
Et puis la tête de veau. Mais la bière était mexicaine, elle n'était pas française.
Hein. Ah bah oui, et vous savez, quand vous le voyez justement à chaque fois au salon de l'agriculture, etc., ben voilà, c'est ça aussi être français, et c'est ce qui fait qu'on peut rassembler. En revanche, à un moment donné, il faut arrêter avec le discours ambiant. C'est-à-dire qu'à la fin de son mandat, il avait une cote de popularité extrêmement faible à 30%. Jacques Chirac, ça reste quand même une forme de trahison en 92, parce que contrairement à la ligne qu'il défendait avant et contrairement à la ligne de son parti, il a prôné qu'on vote oui au référendum pour Maastricht. Il a également fait un barrage au Rassemblement National qui, à mon goût, a jeté la droite dans les bras de la gauche. Et surtout, il a empêché la France de faire le virage du 21e siècle, alors que derrière, en Allemagne, Gerhard Schröder le faisait.
Alors justement, Paulo Pisco, on va revenir sur ce que disait Gilles Casanova. La guerre en Irak, le Portugal, son premier ministre à l'époque, c'était Durão Barroso, qui après a été président de la commission. Le Portugal faisait la guerre en Irak, était pour, Chirac était contre. Les Portugais, ils étaient plutôt chiraciens ou barrosistes à l'époque. Je ne sais pas comment on dit, barrosistes ou...
Bon, à l'époque... La décision, elle n'a pas été pacifique au Portugal, parce que inclut notre président de la République, qui a d'ailleurs à l'époque Jorge Sampaio, qui avait une position, qui avait une vision favorable par rapport à Jacques Chirac, mais il s'est opposé et il l'a dit. Il a suivi l'orientation du gouvernement, mais il s'est opposé
à la guerre.
Donc il y avait cette différence de position entre le président de la République à l'époque, Jorge Sampaio, et le Premier ministre
Durão Barroso. Voilà. Alors justement, il y a un sondage du Journal du Dimanche qui est tombé aujourd'hui, Gilles Casanova. Là, je vais revenir sur ce que disait Éric Tegner, qui disait qu'à la fin de son mandat, il était très impopulaire. Aujourd'hui, pour les Français, Jacques Chirac est le plus grand président avec le général de Gaulle, 30%. très loin derrière Mitterrand, 17, puis ensuite Macron, Sarkozy, 7%, Pompidou, 5, Giscard, 3 et Hollande, 1. Ce n'est pas beaucoup pour l'avant-dernier président.
Il a divisé son score par 3 et était à 3%.
Oui, justement, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal alors qu'à la fin de son mandat, il était à 1% dans les intentions de vote s'il s'était représenté, de voir qu'aujourd'hui, on le met au niveau de De Gaulle. C'est parce qu'il est mort que maintenant, on le vénère ?
La sociologie appliquée qui permet de faire des sondages, elle a des lois et des règles que la presse ne respecte pas parce qu'elle n'a aucune raison de le faire. On ne fait pas un sondage de ce type à chaud à la mort d'un président. Ça n'a pas de sens. Dans 2 ans, dans 3 ans, on reposera cette même question. On aura probablement un résultat différent. Au lendemain de la mort de François Mitterrand, on avait un résultat qui nous disait que François Mitterrand était le plus grand, avec Charles de Gaulle. Ce qui est vrai, c'est que Charles de Gaulle, il avait déjà dans chaque petite ville la principale rue, si ce n'est la principale avenue, avant d'arriver à la présidence de la République qui portait son nom. Donc lui, il est indéboulonnable, indétrônable, il faisait partie de l'histoire de France avant même d'être président. Pour les autres, cela évolue en fonction du moment. Et ce que nous dit le sondage, c'est qu'il ne nous parle pas de Jacques Chirac, il nous parle d'aujourd'hui.
Ça, c'est certainement pas faux. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Tegner ? Comme le disait très justement Gilles Casanova, quand Mitterrand est mort, c'était Mitterrand-De Gaulle. Chirac meurt, c'est Chirac-De Gaulle. Oui. Bon, je ne suis pas convaincu, je ne lui souhaite pas malheur que s'il arrivait quelque chose à François Hollande, ce serait Hollande-De Gaulle, soit dit en passant.
En plus, la réalité, c'est que d'un point de vue politique, ça serait plutôt François Mitterrand. C'est-à-dire que Mitterrand lui-même disait que ça serait le dernier vrai président de la République. Après, ça ne serait plus que des comptables. C'est effectivement ce qui s'est passé. Jacques Chirac, en soutenant justement le traité de Maastricht, a donné un peu les clés de la France à l'Union européenne. Et du coup, c'est privé de la possibilité d'incarner réellement la fonction présidentielle. Je pense que c'est largement exagéré. À mon avis, les Français sont beaucoup plus intéressés par la figure de François Mitterrand. Il faut également prendre aussi une dernière donnée, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui ont connu Jacques Chirac alors qu'ils n'ont pas connu, par exemple, Mitterrand.
Oui, c'est vrai.
Je pense d'ailleurs que pour Giscard, parce qu'il reste Giscard, beaucoup d'interlocuteurs ne savent peut-être pas qu'il est encore en vie. Parfois, c'est une question qu'on se pose. Le fait est que je pense que son décès, ça sera aussi largement différent. Parce que beaucoup de gens ne l'ont pas connu, tout simplement. C'est aussi la fracture générationnelle.
C'est exactement la remarque qu'on se faisait l'autre jour dans la rédaction de Sud Radio. Ils disaient, s'il arrivait malheur à Valéry Giscard d'Estaing, il a quitté le pouvoir il y a tellement longtemps. Ça fait quand même 37 ans qu'il a quitté le pouvoir. 38 ans, pardon. 38 ans et demi même. On pense que quelque part, bon, il y aurait certainement une édition spéciale, mais ça ferait très peu de bruit, alors que Giscard a été un président qui a énormément réformé la loi Veil, la majorité à 18 ans, etc.
Probablement le président qui a pris le plus de mesures demandées par la gauche.
Ce qui est tout à fait vrai. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est presque 9h16, le débat de la semaine. Eh bien, il continue dans quelques instants avec Éric Tegner, Paolo Pisco et Gilles Casanova. On va parler de la convention de la droite qui a eu lieu hier. Et on va se demander, c'est bien d'avoir un intervenant étranger, de ce que devient la droite en France et en Europe. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Le grand matin Sud Radio Weekend. Le débat de la semaine.
Retour du grand débat de la semaine en compagnie de Gilles Casanova, consultant en stratégie, ancien membre de cabinet ministériel à l'intérieur, à la défense notamment. Paolo Pisco, député socialiste des Portugais de France, on va dire socialista évidemment. Et Éric Tegner, président de Racines d'Avenir. Convention de la droite hier à Porte de Versailles, une convention en présence de Marion Maréchal organisée par Racines d'Avenir. Tout d'abord, on va commencer avec vous Éric Tegner, quand on regarde tant l'état de la droite que celui de la gauche, l'un est aussi mauvais que l'autre aujourd'hui en France.
Ah, au niveau des partis politiques, c'est certain. Vous savez, il y a une explosion aujourd'hui, un effondrement des partis traditionnels. On a vu Emmanuel Macron en 2017 qui a bousculé les clivages. Sur ce qu'on appellerait les extrêmes, ce que les médias appellent les extrêmes, il y a un souhait de recomposition qui effectivement s'adresse directement au peuple. En revanche, à un moment donné, il y a un peuple de droite qui existe encore, il est réel. Ce peuple de droite, souvent, il ne vote plus. Il n'y a que 45% des électeurs de Fillon qui ont voté aux élections européennes. Et donc ce souhait de cette convention, cet objectif de cette convention de la droite hier, c'est justement de rassembler des gens, étaient près de 2000 personnes, autour d'intellectuels, autour d'idées, autour d'un débat de fond, parce qu'à un moment donné, c'est que comme ça qu'on arrivera à reconstruire la droite, également par une forme de transgression. Je note que hier, certains médias ont été scandalisés par les propos tenus par Éric Zemmour, qui était un des invités phares de cette convention, qui a effectivement défendu les thèses autour du grand remplacement, autour de l'islamisation de la société, et qui a suscité la bronca de la gauche. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe.
Gilles Casanova, qui est dans le pire état aujourd'hui en France, la gauche ou la droite ?
Elles sont dans le même état, un état un peu désespéré, pour une raison claire. C'est que la politique, c'est quoi ? C'est penser qu'on va utiliser un bulletin de vote, après avoir discuté sur divers sujets, pour peser sur le destin d'un pays. Or, cela, ça demande une souveraineté nationale. Or, comme l'a dit l'ancien président de la Commission européenne, les votes expriment le point de vue des peuples, la politique qui est menée est celle qui est dans les traités de l'Union européenne. Donc, les Français ont intégré ça avec le référendum de 2005 où ils ont voté non et on a fait oui. Et il y a...
Oui, au traité de Lisbonne.
Au traité de Lisbonne, bien sûr. Et il y a donc un terrible désintérêt de la politique qui conduit les gens de droite et les gens de gauche à ne pas voter, et qui empêche l'unité de la droite comme l'unité de la gauche, qui est la question de la souveraineté. S'il n'y a pas souveraineté, il n'y a pas politique. Il y a débat de société, la PMA, le mariage pour tous, la GPA, les crottes de chiens, toutes sortes de débats qui ont leur importance. À Paris, les crottes de chiens, la mairie a fait une grande affaire là-dessus. Ça fait 30 ans que...
C'est Chirac qui avait inventé les raclettes, d'ailleurs les motocrottes, comme on les appelait.
Ça fait 30 ans que ça dure, et croyez-moi, ça vit. Mais... le débat politique, il suppose la souveraineté. Or, la moitié de la gauche, comme la moitié de la droite, pense que la souveraineté est européenne. La moitié de la gauche, comme la moitié de la droite, pense que sans souveraineté française, il n'y a pas de politique. Comment voulez-vous que ces gens-là s'unissent ?
Justement, Paulo Pisco, vous qui êtes portugais, homme de gauche, parti socialiste, c'est pas amusant quand on entend Éric Tegner et Gilles Casanova. La gauche est plutôt favorite pour les prochaines législatives qui auront lieu dimanche prochain. Et bizarrement, le gouvernement socialiste a fait une politique de gauche et bizarrement, il a fait exactement le contraire de ce que lui disait Bruxelles.
Effectivement, je crois qu'il y a, maintenant qu'on arrive à la fin du mandat, il y a une conclusion qu'on peut avoir, qui c'est le fait que ce que le gouvernement a dit qu'il allait faire, ils l'ont fait. Donc je crois que le fait que maintenant le gouvernement socialiste de Portugal a des très bons sondages, on est à une distance de autour de 14% par rapport au centre-droite, ça a à voir avec le fait que tout a été compris, inclus les compromis avec les autres partenaires de gauche qui ont, dans un accord, soutenu le gouvernement à partir du Parlement, soit par rapport à nos obligations avec l'Union européenne, et soit avec nos compromis avec les électeurs. Et donc, je crois que ça a apporté ses fruits, et donc ça, c'est le... C'est la raison par laquelle on est dans une très bonne forme.
Justement, Éric Tegner, quand la gauche fait une politique de gauche, bah elle gagne les élections. Quand la droite fait une politique de droite, théoriquement, elle les gagne après. Mais quand on fait de la droite ou de la gauche, c'est la contraction des deux mots, ça ne marche pas toujours.
Mais comme on le disait tout à l'heure, Giscard, c'est celui qui, alors qu'il était soutenu par la droite, c'est celui qui a fait le passé le plus de lois de gauche. Malheureusement, Nicolas Sarkozy, au lieu de faire une ouverture à droite, il a fait une ouverture à gauche. Cet enjeu de la crédibilité, il est essentiel. Vous avez vu, pendant ces élections à la présidence des Républicains en ce moment, moi je suis membre de ce parti, il y a un candidat, Guillaume Larrivé, qui a proposé la suppression du droit du sol. C'est une idée, il y a quelques années, qui aurait fait bronca dans la scène médiatique et politique, que ça soit porté par une telle personnalité. Et pour autant, il n'y a pas réellement d'impact sur l'opinion. Pour quelle raison ? Parce que la première, c'est que de toute façon, les gens se disent, qui est vraiment le chef chez les Républicains ? Ensuite, ils se disent, de toute façon, ils ne seront jamais élus. Et enfin, s'ils sont élus, ils n'appliqueront jamais cette règle de la suppression du droit du sol. Donc c'est tout cet enjeu de la crédibilité demain qu'il va falloir reconstruire. Parce que les gens, ils s'intéressent de moins en moins à la politique, ils tombent de plus en plus dans l'abstention, et c'est ce qui me semble la chose la plus grave.
Gilles Casanova, quand vous entendez ça, c'est pas vrai que quelque part, quand on respecte ses promesses électorales, ben, ça marche mieux pour se faire réélire.
Quand on respecte ses promesses électorales, on donne le sentiment que voter sert à quelque chose. Donc vos électeurs retournent voter. Quand on fait le contraire, on donne l'impression inverse. Vos électeurs ne retournent pas voter et les électeurs du camp adverse vont aller voter et vous allez perdre. Sauf que, au bout d'un moment, comme tout le monde l'a fait, c'est les dernières présidentielles, ni les électeurs de droite ni les électeurs de gauche ne se mobilisent plus Et on a le diable qui sort de sa boîte. 189 unes de quotidiens et de magazines feront un président, parce qu'on se dira, c'est un nouveau monde. Bon, très vite, il va descendre dans les sondages et le nouveau monde aura le parfum de l'ancien.
Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait utiliser cet outil du référendum. Parce qu'il faut essayer de redonner du pouvoir au peuple.
Excusez-moi, on propose aux Français un référendum sur l'aéroport de Paris et vous me passerez l'expression, il n'y a que 800 000 personnes qui ont signé, ça ne se bouscule pas au portillon.
Non, ça, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un référendum, c'est un référendum d'initiative. C'est un référendum d'initiative populaire. Ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas comme si on demandait à tous les Français d'aller aux urnes, comme l'a fait le général de Gaulle plusieurs fois, et notamment sur la suppression du Sénat en 68, il me semble. Et ce qu'il faut, c'est aussi 69, pardon. Ce qu'il faut, c'est que les Français aussi se responsabilisent. Et moi, j'ai ce côté un petit peu libéral qui dirait que les Français ont trop tendance à se dire que fait le président de la République, ils attendent tout de lui. Ils ne se responsabilisent pas assez et du coup, ils se replient dans leur petite communauté, dans leur petite société. Et du coup, il n'y a plus de commun, il n'y a plus de logique de bien commun. Si à un moment donné, on les confronte à un choix, on leur dit, eh bien, si tu vas voter ou si tu ne vas pas voter, il y aura un réel impact, eh bien là, ils pourront réellement être acteurs. Après, ce qui est vrai, c'est que souvent, on s'est assis sur les référendums qu'on a pu proposer. Je pense notamment à celui de 2005 sur la Constitution européenne, où derrière, on a fait passer le traité de Lisbonne. Mais il faut essayer de développer ce type d'idées. Je trouve qu'il y a une réforme un peu de la Constitution. Il y a des idées qui sont prônées aujourd'hui par Emmanuel Macron. Je pense que la première chose à faire, c'est un référendum sur l'immigration aujourd'hui, et non pas seulement un débat un petit peu scénarisé à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Eric Tegner, président de Racine d'Avenir. Muito obrigado, Paulo Pisco.
Muito obrigado. Merci.
Député socialiste des Portugais de France, et merci beaucoup Gilles Casanova, consultant en stratégie, ancien membre de cabinet ministériel. Parfois les politiques se font envoyer des tomates, et bien on va en parler, des tomates dans tous au jardin dans quelques instants.